c'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi? Moi, je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras. Comme prima, tu me donnes tant de joie. La notte, comme allora.
Et bonjour, monsieur Kogan. Bonjour, monsieur Edmond. Je m'ennuie bien et dans la place. Et nous sommes ensemble pour une heure de joie, de bonheur, de culture et peut-être un peu d'humour, mais ça ne fait rire que nous.
Ah bah oui, commençons par nous demander si nous sommes tous les trois dans les fichiers de Epstein.
Oh, monsieur Kogan, enfin, quand même.
Ça risque assez peu. En tout cas, moi, je n'ai pas un revenu suffisant pour y être.
Ah bon, vous avez les tarifs? Vous aviez la griffe tarifaire?
Manifestement, il y a quand même une espèce de dénominateur commun qui est la fortune, de ce que j'en ai compris.
Ouais, mais peut-être il y avait des prestations au rabais, vous voyez. Apparemment, il aimait beaucoup l'argent, donc peut-être il y avait...
Je
vous
sais
pouviez
pas,
regarder sans toucher, et c'était moins cher.
Jacques Lang a l'air de l'avoir trouvé tout à fait affable, hein, donc...
Oh, monsieur Kogan, vous partez très mal, c'est Je m'en dis bien qui commence, et bien sûr, nous ne parlerons pas de politique.
Ah non, pas du tout. Mais bon, voilà, comme tout le monde, je suis choqué par cette affaire, mais l'actualité est tellement sordide ces temps-ci. Finalement, passe-moi autre chose.
Alors, il n'y aura pas Madame Ginette, c'est bien dommage.
Madame Ginette qui a été terrassée par un vilain virus hivernal, et on lui souhaite un prompt rétablissement.
Ben oui, absolument. Rétablissez-vous vite. Interview. Et j'aurais bien aimé lui envoyer cet article parce que je sais que ça l'intéresse. Le réel danger avec les araignées, c'est la peur que nous en avons. Alors c'est écrit, c'est une interview de Jessica Jousse-Baudonnet dans Libé, qui est une vulgarisatrice scientifique, une ancienne vétérinaire et qui pendant très très longtemps a eu peur des araignées. Et du coup, pour vaincre sa peur, elle les a étudiées, donc elle raconte plein de choses sur les araignées. Voilà, si c'est pour ceux que ça intéresse, je sais qu'il y a beaucoup de gens.
Ah, c'est tout ?
Ben, je ne vais pas vous lire l'article, là, c'est les titres, Madame Henriette.
D'accord.
C'est pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller voir ce que les araignées m'ont appris. Et voilà, elle a écrit un petit livre. Et normalement, après, vous n'avez plus peur des araignées, Madame Henriette.
Ben, écoutez,
mais moi, formidable. Je ne sais pas pour Madame Henriette, mais moi, je n'ai pas du tout peur des araignées.
c'est bien pour vous, Monsieur Kogan.
Alors, moi, j'ai peur des araignées. Voilà. Mais je me soigne comme la dame, là, pareil.
D'accord.
J'essaie de rationaliser, en fait.
J'ai appelé l'araignée qui habite en bas de mon escalier, Charlotte. Et voilà. Elle est de plus en plus grosse. Alors, ça m'inquiète, parce qu'un jour, elle va peut-être m'empêcher de monter l'escalier.
Mais vous êtes sûr que c'est toujours la même? Vous la reconnaissez vraiment?
Mystère.
Ah, voilà.
Alors, Charlotte, c'est pas le nom de l'araignée dans le film Babe? Je ne sais plus. En fait, c'est bien un nom d'araignée, Charlotte, je vous le confirme. Vous avez bien choisi.
Espérons que cette araignée ne sera pas une Charlotte sur votre tête. Alors, un titre qui va faire peur à Madame Henriette. Chasse à l'arc ou stérilisation? À Lyon, la mairie et la préfecture s'affrontent sur l'avenir des ragondins.
Non, mais là, ça devient... Bon, bref, je sais qu'on est en pleine dystopie, mais quand même.
Madame Ginette, si vous nous entendez, hein, chasse à l'arc ou stérilisation à Lyon?
En effet. Bon, bah, écoutez, Robin Desbois, lui aussi, est dans la place. Hein. On va voir défiler des archers à Lyon.
Je sais pas. Alors, trop facile, malheureusement, dans ce monde en perdition. Qui a dit, ouvrez les guillemets, s'ils concluent leur accord, la Chine prendra possession du Canada. Et la première chose qu'ils feront, c'est de mettre fin au hockey sur glace.
Oui, oh, bah, c'est Donald Trump.
Eh oui, bravo Madame Henriette.
Alors, vous faites saturer là, je ne peux pas suivre au niveau technique. Non, mais là, bon, voilà.
C'est grand quand même. Rappelez-nous Madame Henriette, il fait quoi ce monsieur? Il est chroniqueur à CNews ?
Alors ça, c'est son futur poste quand il... Voilà, après. C'est...
Il va y avoir de la place surtout. Hein. Apparemment, il y a du Mabrouk s'en va. Enfin, il se passe des choses.
Il était temps, j'ai envie de dire. Hein.
Donc, non. Là, c'est... C'était, comment dire, ça se voyait depuis l'espace.
Ouais, bon, allez.
Bon, écoutez, alors, si l'enjeu, c'est la disparition du hockey sur glace, je pense qu'il faut... il faut que ça soit soumis à une résolution de l'ONU, hein, parce que...
Allez, une bonne nouvelle, Madame Henriette. L'Indonésie interdit les promenades à dos d'éléphant.
Ah.
Eh oui. Donc c'est bien pour nos amis éléphants, évidemment.
Vous avez des amis éléphants ?
Mais j'en ai plein. Et certains,
oui,
qui, certains qui trompent pas.
Oui, moi j'en avais plein quand j'étais un jeune militant.
Oui, non mais ça, allez, ne sortez pas les dossiers.
Et évidemment, j'invite chacun à relire le magnifique texte de Romain Gary sur l'éléphant. Ce titre, je ne sais pas s'il est réel ou... Non, ben si, c'est le Figaro, pardon, avec l'AFP. Soudan du Sud, un homme mort depuis 5 ans est nommé pour plancher sur l'organisation des élections.
Eh ben écoutez, ça va se passer le mieux du monde. Je pense que la situation est sous contrôle.
Vous sentez que c'est un job sérieux, s'occuper des élections au Soudan. Même quand vous êtes mort, vous pouvez le faire.
Oui, et puis la mise à jour de l'état civil n'est pas fréquente.
Au Soudan du Sud. Hein.
Oui, pardon. Soudan du Sud. Et donc, c'était le malheureux Steward Sorobo. Peut-être qu'il aurait voulu s'occuper des élections, mais bon, malheureusement pour lui.
Oui, il va être empêché.
Allez, alors je ne sais plus si je vous en ai parlé dans une précédente émission, mais dans le doute, je la refais, ce n'est pas grave, parce qu'on n'est jamais assez didactique sur cette question. Donc à l'approche d'élections, une marotte revient, notamment dans la bouche des élus de droite. Eh bien, en France, il suffit de rien faire pour être riche comme Crésus. En d'autres termes, ne faites rien et ça va vous rapporter beaucoup plus que le salaire minimum. Alors, Bruno Retailleau, par exemple, arrive à calculer ça. Hein. Je ne sais pas qui l'aide, je ne sais pas quelle calculette il a. Et il arrive à des montants d'aide 1,5 à 1,7 fois le SMIC, si vous ne faites rien. Alors, certains journaux ont quand même pris la peine d'aller interroger des professeurs d'économie. Par exemple, Muriel Pucci, je ne sais pas comment on dit, Pucci peut-être, si c'est deux CI. À l'Université de Paris 1, présidente du comité scientifique du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc autant dire qu'ils ont l'habitude de tripoter tous ces chiffres. Et elle a dit « Oh, ça me paraît très surestimé et trompeur ». Donc elle a regardé en détail ce qu'avait dit le président de LR. Alors le gars, c'est simple, hein, il s'embête pas. Il prend deux personnes sans travail qui demandent toutes les deux toutes les aides absolument possibles, même les aides exceptionnelles, comme l'aide au permis de conduire et l'aide pour l'équipement ménager. Vous voyez ? C'est-à-dire le truc, vous touchez une fois, il met tout ça dans le même et il vous dit « Ouais, mais regardez, les mecs, ils font rien, ils peuvent travailler, ils travaillent pas, ils ont une seule fois, 1,7 fois le SMIC. » Alors éventuellement, peut-être une fois dans l'année, et encore, tous les calculs montrent que ce n'est même pas possible. D'autre part, la chercheuse relève que ça n'a absolument aucun sens de comparer le revenu de quelqu'un qui ne travaille pas à un smicard, puisque le smicard a également droit à des aides. Donc en fait, il faudrait ajouter au revenu du smicard les aides auxquelles il peut lui aussi prétendre.
On peut dire un salarié au SMIC aussi.
Un salarié au SMIC, si vous voulez, Madame Henriette. Et donc, d'après cet économiste, cas d'un foyer avec deux enfants dont un parent travaille au SMIC, le foyer touchera 2859 euros contre 2375 euros pour ceux qui ne travaillent pas. Voilà. Donc, à peu près 484 euros de différence pour celui qui travaille par mois. Ça commence à être quelque chose quand même.
Vous savez, pour celui pour qui l'état de droit n'est pas intangible, les calculs n'ont pas forcément besoin d'être exacts.
Allez, c'est tout ce qu'on lui cède, des calculs. Alors, BTS...
Ça, c'est pas gentil, par contre. Ben, bravo, la bienveillance.
Oui, alors j'en ai eu, j'ai trouvé ça pas très drôle. Déjà que j'ai détesté les maths, et ben j'ai détesté les calculs, voilà.
Alors, on en a parlé l'autre fois, et je me suis dit quand même, je vais regarder ça de plus près, et puis surtout après, je ferai un petit Un petit truc sympathique à Madame Henriette. J'espère qu'elle n'avait pas prévu d'en parler. En tout cas, on en a parlé l'autre fois. C'est évidemment le grand retour de BTS.
Oui,
BTS. C'est comme ça, BTS.
BTS, ouais, un truc dans le genre.
Alors, on a un peu plus d'infos. Ce sera le 21 mars sur une grande plateforme. Et donc, pour
mais
la sortie.
De quoi parlez-vous, en fait je...
du plus grand groupe de musique actuel, monsieur Kogan.
Hein
de la K-pop.
Nous parlons de BTS depuis tout à l'heure.
Et comme on l'avait expliqué, ils étaient tous partis au service militaire, donc 3 ans d'absence.
Ah, donc on est en train de parler de musique coréenne. Peut-être faut-il le préciser aux gens, aux auditrices, aux auditeurs, qui, à la différence de vous, écoutent de la bonne musique. Voilà.
Non, mais monsieur Kogan, vous êtes le seul à ne pas connaître BTS, c'est pas possible. En plus, autour de vous, je suis sûr qu'il y a des gens qui savent ce que c'est.
Non.
Alors écoutez bien. Non, mais écoutez bien quand même. Donc, grand concert de retour sur une grande plateforme, ce sera en direct le 21 mars, à Séoul évidemment, hein, le retour il ne pouvait pas se faire ailleurs. Diffusé dans 190 pays. Non, mais je pense qu'actuellement, moi je vois personne d'autre qui, pour leur retour, ont cette espèce de. Bon.
Madame... Si les Beatles, je pense. Les Beatles. Si les Beatles se refondaient.
Les Beatles, ils pourraient aller faire Soudan du Sud s'occuper des élections.
Là, hein. s'il y avait effectivement la reformation des 4 Beatles, oui, en effet, je pense que ça serait un événement.
C'est super, merci Madame Henriette. Mais non, mais sérieux, les Beatles. Donc, ils sont 7, Madame Henriette, ils sont 7. Écoutez bien ce titre sur BTSE. BTSE de retour sur scène, 5 chiffres fous sur le succès planétaire du boys band coréen. Devinez quel journal a titré ça.
Je l'ignore. Ça, c'est moins limpide, si vous voulez, que votre dernière devinette.
Là, c'est... Le journal, La Croix.
Oui, ça vous.
Non, mais,
ça,
non, mais
ça
quand,
vous fascine.
Quand BTSE est dans La Croix, là, il se passe quelque chose, non?
Je croyais qu'ils étaient dans Présent, alors tout de suite, non, c'est.
Ah ben non.
Alors, les 5-6, je vous les donne quand même pour situer ces petits gars. 40 millions d'albums physiques vendus dans le monde. Alors, ils sont quand même très loin de Taylor Swift. 200 millions d'albums. Bon. Par contre, ils sont devant. Ils vont rejoindre Pink, qui en a vendu 60 millions d'albums en 20 ans de carrière, alors qu'eux, ils en sont qu'à 13.
Oui, mais enfin, ils sont 7, c'est plus facile.
Sur Spotify, c'est définitivement le groupe masculin le plus écouté, avec 45,7 milliards de streams en novembre 2025. Sur YouTube, 82 millions d'abonnés. Et ils sont devant Taylor Swift, pour le coup, qui n'a que 63 millions, et les Britanniques de Coldplay, 55 millions.
Alors, autant...
BTS, mais ils sont 7, alors peut-être c'est pour ça.
BTS,
ils ont plus de...
Autant Taylor Swift, je vois le côté graphique et l'intérêt d'être abonné sur YouTube.
Oh, ça y est, elle va dire une méchanceté sur Coldplay.
Non, mais je suis désolée, mais visuellement, il ne se passe rien. Avec Coldplay.
Non, mais, Madame Henriette, vous avez un problème depuis toujours avec Coldplay, je ne sais pas lequel...
Parce que j'ai pas l'habitude des mauvais groupes anglais.
Oh non!
Oh là, elle s'en va.
Oh non, je sais. Vous voyez, je sais qu'elle dit ça exprès pour m'énerver. Mais non, mais c'est pas possible.
Non, mais on parle de Coldplay. Il y a un malentendu, là, monsieur Kogan.
Non, il n'y a pas de malentendu. Vous êtes en train de dire du bien d'un groupe de K-pop et de dire du mal d'un groupe anglais.
C'est pas que je dis du bien. Je dis que YouTube, c'est quand même de l'image et que je vois l'intérêt visuel des deux premiers.
Oh, il y a des filles qui voient l'intérêt visuel de Coldplay.
Oh là, plus trop maintenant quand même. Hein.
Ah bon? Ah pardon, mais j'ai pas suivi moi. Ouais, ça s'est détérioré.
Non, vraiment, je pense que graphiquement, c'est pas extraordinaire. Mais après, il y a des gens qui ont besoin d'images pour comprendre le son, pourquoi pas.
Alors, évidemment, dans cette affaire, les plus heureux, ce sont HYBE, l'entreprise de divertissement qui a lancé BTS et qui maintenant est valorisée à hauteur de 10 milliards d'euros.
Oui, ils sont en bourse.
Ouais, tout à fait. Bon, ils ont aussi New Jeans dans leur
ça doit aider aussi.
Écurie et Anypen. Non, vous connaissez ça? Non.
Non.
Alors, selon l'Institut Dernier Chiffre Coréen de la Culture et du Tourisme, BTSE génère à lui seul plus de 3,8 milliards de dollars en Corée du Sud, soit 0,2% du PIB national.
Eh oui.
Ah, ça scotche, monsieur
Un seul groupe, en effet. Un seul groupe, oui.
Toujours le même institut, ils estiment qu'ils auraient attiré près de 800 000 visiteurs étrangers par an en Corée du Sud. Voilà. Juste en faisant la promotion de ce pays, évidemment.
Non, non, mais les retombées économiques sont pas neutres. Et c'est pour ça qu'il avait été évoqué la possibilité qu'ils ne fassent pas leur service militaire. Puis bon, c'était dans ce pays où il y a tellement d'inégalités, ça passait trop mal. Mais donc, ils ont fait leur service militaire.
Surtout, c'était la porte ouverte. Après, tous les chanteurs, à mon avis, ils étaient tous exemptés, tous les machins.
Mais en effet, à un moment donné, même sur le plan économique, on s'est dit, est-ce que c'est une bonne idée de les faire partir entre 18 mois et 2 ans du marché, quoi.
Eh oui, parce que c'est vraiment un produit, hein, on est clair. Je suis d'accord avec vous, oui, Monsieur Kogan, j'ai jamais écouté ça.
Alors, au-delà de la plaisanterie, c'est la deuxième fois dans l'histoire de la musique que cette situation prend autant d'ampleur. C'est-à-dire que le départ au service militaire d'un artiste, enfin là, c'est un groupe... Mais... provoque autant d'émoi. Il faut revenir au service militaire du King pour se retrouver dans la même situation.
Alors
pour la raison, l'impact sur les finances.
Alors justement, ma petite friandise pour Madame Henriette. Connaissez-vous les Kim Sisters?
Bien sûr, ce sont elles qui... C'est les premières qui ont... Alors là, on remonte quand même aux années 60.
Ah, même avant, je vous allais voir.
Années 50.
Ouais, alors ouais. Leur histoire à elles commence, mais effectivement...
Mais les Kim Sisters, en fait, c'est un trio. Il y a un petit côté Supremes, d'ailleurs, quand on les... Supremes ou Ronettes, je confonds. Avec les choucroutes de l'époque, c'était trois jeunes femmes coréennes.
Mais
est-ce que
vous connaissez leur histoire?
Alors non, je ne connais pas leur histoire, mais ça a été le premier groupe de pop coréenne à s'exporter, en fait.
Ouais, alors je vous en dis trois mots.
Sur le contexte, rien à voir, parce que là, on est en pleine dictature militaire et ça rigole pas beaucoup en Corée.
Vous allez voir, ça rigolait pas.
Et même exactement comme dans la dictature franquiste, la longueur des jupes des filles est mesurée. Alors pour elles, il y avait une exception manifestement, mais on est dans cette ambiance-là quand même.
Vous allez voir ce qui s'est passé. Et donc le trio, c'est donc Suk Ya, et en fait qui est appelé Su, puisqu'ils avaient américanisé tous leurs noms. Après, il y a Eja qui devient Eja, elle, et Minja qui devient Mia. Et donc Kim, à chaque fois, puisque ce sont trois sœurs. Alors, ces trois sœurs, elles avaient le papa Kim, Kim Hae-sung, qui était chef d'orchestre, qui était déjà connu dans le showbiz en Corée, et qui avait décidé que ses trois filles seraient également musiciennes. Et apparemment, il les a bien, bien tabassées pour qu'elles soient musiciennes.
Mais c'est l'histoire des Jackson 5.
Ah non, mais apparemment, c'était très difficile leur enfance. Et donc, assez jeunes, toutes les trois jouaient de 20 instruments de musique. Et Monsieur Kogan, y compris de la cornemuse.
Ah, oh, bah alors.
Oui, c'est l'instrument typique du folklore coréen, comme chacun sait.
Début de la guerre en 1950, les Nord-Coréens, arrivent jusqu'à Séoul, réquisitionnent la maison familiale. Et exécute le père. Et Su, l'une des filles, a été témoin de tout ça. Elle n'avait que 9 ans. Bon. Alors, les trois filles, évidemment, se trouvent dans la panade. Et le seul moyen qu'elles trouvent, c'est de chanter devant les GI, les soldats américains. Puisqu'évidemment, elles avaient de la musique. Elles avaient la musique dans le sang, dans
le
dire.
Oui, parce qu'il faut savoir que les Nord-Coréens repartent.
Voilà, un moment, et oui, ils repartent. Et donc... Un jour, les GI écrivent une lettre et la signent pour dire que vraiment, il y a trois filles exceptionnelles en Corée. Et ils envoient ça à un producteur américain, Tom Ball, qui vient à Séoul les auditionner et leur propose un contrat. Et en 1959, elles débarquent à Las Vegas. Et alors là, c'est parti. Elles sont invitées dans le Ed Sullivan Show, etc. Elles reprennent des classiques d'Elvis, notamment, on en a parlé, Elvis Presley. Et le premier soir où elles sont dans le Ed Sullivan Show, il y a Louis Armstrong et ça cartonne. Voilà. Et après, elles vont chanter pendant 20 ans quand même, les Kim Sisters. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, leur carrière s'arrête en 1975, donc après 20 ans. Edgy, malheureusement, est morte en 87 d'un cancer des poumons. Mia, elle vit en Hongrie. avec son mari musicien. Et Sue Kim, alors je pense qu'elle est toujours aux USA. Et en 2014, ça a été la première coréenne à être dans le Artist Hall of Fame du Nevada. Voilà, voilà, voilà. C'est pas mal quand même. Alors, il y a une chaîne YouTube, si vous voulez aller voir effectivement les choucroutes dont parlait Madame Ariette. Et puis, vous pouvez les booster un peu parce qu'elles en sont à 292 abonnés. Donc, avant de rejoindre BTSE, quoi, il y a un peu de chemin. Mais bon, elles les ont précédées, hein, c'est sûr. Allez, Madame Ariette, c'est à vous.
Bah alors là, vous m'avez...
Non, je m'ennuie bien. Ah là, j'ai vu qu'elle est toute pétillante.
Non, mais vous m'avez scotché surtout. C'est pas tous les jours que vous parlez de K-pop. Bon, on commence avec une info absolument ridicule que peut-être Monsieur Kogan a vue. Alors, ça se passe dans un cimetière d'Édimbourg que vous connaissez peut-être, Monsieur Kogan, qui s'appelle le Old Carlton Burial. Voilà.
Oui, oui.
Alors, dans ce cimetière, il y a diverses célébrités, dont une célébrité que tout le monde a oubliée en France, surtout ceux qui sont passés rapidement au programme de Terminal. Il y a la tombe de David Hume, donc philosophe du 18e siècle, et qui fait partie de la mouvance des Lumières en Écosse. Voilà. Et alors,
jusque-là, tout est normal, Madame Ariette. Hein,
oui, qu'il soit au cimetière alors qu'il a vécu au XVIIIe siècle, oui, en effet, jusque-là, bon, voilà. Lui non plus, il ne devrait pas revenir trop rapidement. Donc, le problème de ce cimetière et le problème de David Hume, c'est qu'il est, on ne sait pas trop pourquoi, il est régulièrement invoqué, invoqué, révoqué, plus ou moins, plutôt, notamment à cause de ses idées sur les races. Hein. On est quand même au XVIIIe siècle, autant dire qu'on n'est pas très avancé là-dessus. Et donc, ça a été, c'est un peu tendu à ce niveau-là avec le mouvement Black Lives Matter. Bon. Là-dessus, il y a eu de plus en plus de vandalisme dans ce cimetière. Et récemment, eh bien, la tombe de David Hume a été vandalisée, on peut dire, avec des signes dont on ne sait s'il faut en rire ou s'en offusquer. Alors, on ne sait pas trop. C'est une espèce de truc un peu ésotérique. Est-ce que c'est... Bon, on ne sait pas trop. Il y avait le dessin d'une femme nue avec un couteau qui menaçait un bébé. Il y a des espèces de signes. On ne sait pas trop ce que c'est. En tout cas, moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être M. Kogan les reconnaîtrait. Bref, tout ça est assez ridicule et prend des proportions encore plus ridicules puisque on a des espèces de messes noires autour de cette tombe et donc on a ça devient grotesque. Alors ce cimetière qui était très touristique, qui était très visité, ça devient très compliqué. Et notamment la nuit, il était ouvert la nuit, il a fallu depuis cet été, il est fermé. Et même avec ces précautions-là, eh bien, il y a encore quelques événements regrettables. Et donc, on a le témoignage d'un guide qui, passant à côté du cimetière, a vu des personnes vêtues de longues toges qui faisaient brûler tout un tas de chandelles autour de cette tombe et qui a prestement pris la poudre d'escampette parce qu'il a senti que ces gens n'étaient pas complètement sains. Voilà. Ça pose souci parce que y a même des agressions dans ce cimetière où les groupes de touristes et leurs guides sont pris à partie, voire caillassés. Donc,
mais qu'est-ce que c'est, Madame
Ariette ? Mais oui, on ne sait pas trop. Voilà, je vous invite à aller lire l'article du Guardian qui, manifestement, ils ne comprennent pas davantage que nous ce qui s'y passe. C'est un article qui date de quelques jours puisque c'est un article du 30 janvier. Voilà. Que se passe-t-il autour de la tombe de David Hume ? Et surtout, les gens n'ont-ils pas mieux à faire ?
Et puis lui, il n'avait rien demandé, évidemment.
Alors, il ne demande plus rien depuis longtemps, hein. Il
ouais,
est mort.
Ouais, non, mais des fois, il y en a qui ont des textes vraiment... mais là, il se base sur quelque
chose. Je
ne
voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est mort en 1775. Alors, ça fait un moment qu'on n'a pas trop de réclamations de sa part. Hein.
Ni trop de nouvelles, d'accord.
Non, on est assez tranquille, bon, là.
Bah, voilà, les cimetières sont mal fréquentés. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Donc, voilà, c'était la...
Je leur collerais un petit zombie, moi, là-dedans. Ils se calmeraient peut-être.
Ça, c'est petit message personnel.
Comment ça, personnel?
Petit zombie, c'est un personnage de BD.
Non, mais tu vois, je ferai un truc où on a une main qui sort de la tombe de David Hume et puis une voix qui gueule. Mais vous en avez pas marre, foutez-moi la paix!
C'est David Hume.
Oui, Hume, voilà.
Voilà.
Ce serait rigolo, ils ont qu'à faire ça une fois, la mairie, après ça va peut-être les calmer.
Pour moi d'ailleurs, pas d'excellent souvenir en philo. Hein. C'était pas le plus limpide des philosophes qu'on a étudié.
Bah, visiblement, il est incompris. Hein. Après, c'est peut-être l'accent, parce que les Écossais... Bon.
J'ai encore du temps ?
Mais oui, allez-y, Madame Henriette. Enfin, je sais pas, sauf si Monsieur Cogan a 15 films à nous faire.
Trois.
Ah bon, ça va. Allez-y, Madame Henriette.
Alors, une petite info pour la classe à Dallas et surtout la classe à Mar-a-Lago. Les États-Unis, donc, ça y est, Alors, ça faisait un moment qu'ils avaient prévenu qu'ils allaient quitter l'OMS. Ça y est, ils ont quitté l'OMS. Eh bien, ils ont laissé une ardoise, figurez-vous. Parce que les États-Unis, ils avaient une convention qu'ils étaient la seule à avoir avec l'OMS. C'est un article du Monde daté du 1er février, puisqu'en fait, aucun pays ne peut quitter l'OMS. La convention, elle a été faite comme ça. Une fois qu'on a ratifié, on reste dans l'OMS. Sauf les États-Unis, qui avaient négocié un truc juste pour eux, en fait, où eux, ils peuvent quitter l'OMS à deux conditions, donner un an de préavis, et la deuxième, être à jour de leurs dettes et donc avoir payé l'année en cours. Eh bien écoutez, les Américains, ils sont partis, ils n'ont pas payé leurs dettes. C'est d'une grande élégance. Ça montre la fiabilité.
C'est du Trump dans le texte, hein, quand même.
Oui, alors parce que comme d'habitude, en fait, quand ils prennent aux autres, c'est parce que les autres leur doivent. Hein, voilà. Donc en fait, l'OMS leur aurait coûté trop cher, aurait coûté trop cher aux États-Unis pour la gestion de la crise du Covid. Donc
c'est vrai qu'ils ont tellement bien géré, je comprends.
Voilà.
C'était déjà Trump, hein, rappelons-le.
Voilà. De la même façon, les Groenlandais, ils doivent être annexés parce qu'en fait, ils doivent de l'argent aux États-Unis parce que comme à un moment donné, ils ont pris leur indépendance, s'ils étaient restés aux États-Unis pendant tout ce temps-là. Ils auraient apporté leurs ressources aux États-Unis. Non, mais c'est des calculs assez intéressants. Ouais,
Et le Groenland n'a jamais été américain, mais bon.
Mais ils étaient sous la férule des États-Unis à un moment donné.
Ouais.
Bon, enfin, en tout cas, c'est n'importe quoi, une fois de plus. C'est vrai, ils sont complètement sans gêne, ils sont en roue libre.
Non seulement c'est n'importe quoi, mais en plus, bon, le minimum de l'élégance, c'est de payer ses dettes, en fait.
Ils sont les maîtres du monde. Bon, ben, on a compris, ok.
Voilà. Allez, et puis d'autres rigolos. Hein, vous savez que c'est les JO d'hiver, là.
Non. Ben alors, j'en ai rien à cirer, hein, vraiment. Hein.
En Italie. Et donc, dans le dossier de candidature, ça devait être les Jeux d'hiver les plus durables de l'histoire. Et ceux de Milan Cortina. A priori, c'est pas gagné. Toute la neige, ou quasiment, enfin, la plus grande partie de la neige qui sera utilisée sera de la neige artificielle. Ce qui coûte une blinde, en effet. Mais bon, l'idée, c'est d'organiser des JO d'hiver au moment où il n'y a pas de neige à cet endroit-là. Hein,
mais
c'est
ça,
quand même...
ils peuvent pas le prévoir, ça.
Alors si. En fait,
ah bon,
c'est juste que...
Bah, en février, normalement, il y a de la neige, des fois.
Ben,
enfin, avant,
a priori,
y en avait,
pas là.
Avant, il y en avait.
Et donc, non seulement, bon, ça coûte fort, fort cher, et donc, a priori, le budget est déjà largement explosé, mais en plus, ça a obligé à réquisitionner toute l'eau qu'il y avait autour.
Ah bah
autour.
Oui, ça pour faire de la neige.
Une énorme retenue d'eau a dû être construite. Elle fait l'équivalent, je crois, de 160 piscines olympiques. Et pour la remplir, il a fallu détourner une rivière locale qui déjà est largement ponctionnée par les barrages pour produire de l'énergie
électrique,
de l'électricité.
Oui.
Donc cette pauvre rivière, a priori, il n'en reste pas grand-chose. Ceux qui sont en aval, tant pis pour eux, ils n'auront pas d'eau.
Oui, mais ils ont les JO.
Et donc, cette énorme retenue d'eau, elle va servir pendant quelques jours à quelques centaines de personnes, mais elle va permettre de produire une neige artificielle qui est ce qui est attendu par les athlètes, puisque pour que tout le monde ait les mêmes chances, eh bien, il faut que ce soit une neige calibrée.
Ah ben c'est horrible la neige artificielle. Hein, c'est...
Voilà, c'est un article du Monde du 3 février que je vous invite à aller lire.
Ce que vous voulez me dire, c'est que la France a bien fait d'organiser les suivants. Hein, c'était une super idée, c'est ça que vous voulez dire.
Eh bien écoutez,
on
verra si ce seront les plus verts.
Ouais, oh ben ça c'est sûr. Allez, dans Je m'ennuie bien, il est bien l'heure de rejoindre M. Kogan.
Alors absolument, mais encore faut-il que je trouve mes notes pour cette chronique. Évidemment, parce que, comme d'habitude, j'étais très en avance, n'est-ce pas, pour rédiger. Alors, mesdames, messieurs, une chronique culture à la radio, alors que les Ukrainiens prennent des bombes, les Palestiniens prennent des bombes, les Iraniens prennent ou vont prendre des bombes, et que Roger, retraité toulousain, a voulu en cacher une dans son slip. Alors, n'est-ce pas, un peu futile de parler culture.
Vous êtes un chouïa trop près de votre micro, Monsieur Kogan. Excusez-moi de vous interrompre.
Ah, je vous en prie. Alors,
allez
alors,
au but. Bon,
évidemment. Oh. Et... Oh allons au but.
Oui, pardon, Monsieur Kogan.
Bon, bien sûr. Ouais, c'est merveilleux. Show must go on. Alors, après les Golden Globes, la 68e. Cérémonie pour les musiciens sur CBS, c'est que je veux parler donc des Grammy Awards. Voilà. Et là, aussi, ben, pas beaucoup de surprises puisque Kendrick Lamar, Bad Bunny, Billie Eilish. Ah oui, alors moi, j'ai découvert Olivia Dean, alors je ne savais pas qui c'était non plus. Qui est sans doute une des seules à ne pas avoir hurlé sa haine de Trump. Hein, bon. Et pour cause, puisqu'elle est anglaise. Voilà.
Bon. Je ne savais même pas qui c'était. Trump, quoi ? De qui vous me parlez ?
Voilà. Et tout comme, et là, c'est la folie, The Cure, qui a donc reçu 2 trophées. Alors, vous allez me dire, il était temps, hein, puisque malheureusement, eh bien, le groupe commence
à perdre des membres.
Voilà, à disparaître. Espérons pas trop vite. Alors, côté cinéma... Commençons par un petit bijou, et je sais que Madame Moriette sera d'accord avec moi, puisqu'elle l'a vu, je crois, hein, ça s'appelle « Fais-moi un signe ».
Et j'ai adoré.
Voilà, et donc c'est un film qui a été vu en avant-première, puisqu'il s'agissait d'un petit festival auquel on a eu droit d'une série de films japonais donc en avance, donc qui sortira donc dans quelques mois. Donc le film Fais-moi un signe de Mipo Oh. Alors je découvre cette réalisatrice dont un film a pourtant été nommé aux Oscars. Bokuga Ikitaru Futatsu no Sekai. Voilà. Eh bien voilà. Si quelqu'un peut me traduire, je suis pour là. Alors malgré le pitch, un enfant qui doit apprendre à vivre avec 2 parents sourds, on est très loin de la famille Bélier. Et oui, parce que je pense que beaucoup de gens vont faire ce lien. Alors, comment dirais-je donc, rien à voir non plus avec la chanson du trop vite oublié Gérard Palapras, n'est-ce pas, hein, l'interprète du mythique Pour la fin du monde. Voilà, je vous invite à taper sur Internet.
Oui, là, vous nous inquiétez, en fait.
Alors, rien de tout ça ici. Haru, enfant, ne voit aucun problème dans le fait d'avoir des parents un peu étranges. La gêne vient plus tard, petit à petit. Il va lui falloir du temps pour comprendre que parler, communiquer, vivre tout simplement sont des choses plus compliquées que l'absence ou non de parole. Et c'est encore Ryo Yoshizawa qu'on a vu et adoré dans Le Maître du Kabuki qui endosse ici le rôle de l'ado à l'adulte, hein, donc de la crise à la révélation de ce personnage. Donc, c'est beau, surtout le rapport avec la mère, hein, qui est vraiment incroyable. C'est très émouvant et sidérant encore de par ce qui nous sépare et de ce qui nous unit à ce Japon, à la fois si loin et si loin. Alors, bref, un film tout bien, voilà, qui donne envie de sourire et surtout de suivre la carrière de cet acteur vraiment facétieux.
Oui, l'actrice qui joue la mère aussi est quand même assez extraordinaire. Et c'est vraiment un très joli film. C'est un film qui est à la fois triste et joli. C'est pas facile à réussir.
Alors, finalement, c'est un peu dans la même lignée. On va monter d'un cran quand même nettement. Hein. Le deuxième film est un chef-d'œuvre. Voilà. Bon, alors je clôt le débat, ou alors plutôt je l'ouvre. Mais pourquoi ne voit-on pas plus souvent Jessie Buckley? Ça, c'est une question que je me pose. Hamnet de Chloé Zhao, qu'on ne présente plus, hein, tant sa filmographie parle pour elle. Si The Eternal s'était raté, ce n'est pas le cas, c'est le moins qu'on puisse dire, de The Rider ou Nomadland, ou encore de Songs My Brother Taught Me. Tous les trois sur l'Amérique profonde, le rapport aux indigènes, etc. Là, elle s'attaque à un mythe, Shakespeare. Et avec un scénario de l'autrice même du livre dont c'est issu, Hamnet, oui, Maggie O'Farrell. L'histoire raconte, oula, ne commençons pas ainsi. On croit tout savoir sur William. Mais en fait, on sait finalement assez peu de choses. Le roman et le film racontent... qu'est-ce qu'il raconte Vous êtes en train de vous dire que j'ai perdu ma page. Eh bien, vous avez raison.
Oui, on a entendu les sons. Tout est parfait, M. Kogan. En même temps, il n'y a rien à dire sur William. Hein.
Non, ça raconte une histoire d'amour et de famille, celle de ce couple, William et Agnès. La vraie femme de Shakespeare s'appelait Anne. Et leurs enfants, dans cette fin du XVIe siècle. Paul Mescal est parfait, Jesse l'est encore plus. Mais d'abord, la quête de gloire, puis le deuil. Oui, il faut bien parler des enfants dans ce film qui sont formidables. Les trois acteurs le sont, évidemment, comme leurs personnages. Le deuil va frapper cette union, cette famille idyllique. Cette belle Angleterre rurale, païenne, sauvage, se dissout presque dans la tristesse, dans la ville. Mais tout ici est magnifié. Même la peste qui frappe très cruellement en devient presque étonnante, envoûtante. Alors la mort sera au cœur de la pièce qu'écrit Shakespeare. Et le N devient un L. La nuit devient lumière. Car à la fin, vous allez être bouleversé par la poésie, charmé par les acteurs, enchanté par les images, le son aussi, je ne parle même pas de la musique. Bref, un film merveilleux, tragique, profondément juste et beau. Voilà, Jessie Buckley forever.
Vous nous encouragez donc vivement à aller le voir.
Absolument. Alors...
Et peut-être, si on peut vous interrompre une minute, Monsieur Edmond a vu récemment une pièce de théâtre par un autre William, qui est William Mesguich, qui s'appelle Être ou ne pas être, et qui est également un hommage, en filigrane, à la célébrissime pièce de Shakespeare, dont il dit qu'à un moment très compliqué de sa vie, elle lui a offert le théâtre comme bouée de secours après
une blessure qui l'a empêché
de faire la carrière sportive dont il rêvait depuis tout petit. Voilà, c'est une très chouette pièce, très rigolote en plus, c'est vraiment de la comédie et ça tourne.
Et c'est une pièce dont Guéret en Creuse a eu la primeur, puisque c'était la première fois qu'elle était jouée, parce que c'est un tout nouveau spectacle de William Mesguich, qui évidemment fait partie de la famille Mesguich, dont Daniel est sans doute le représentant le plus connu, parce qu'il a longtemps hanté tous les théâtres de France et de Navarre.
Le portrait fait par son fils est très drôle.
Ouais, très drôle. Et donc, retenez ça, Être ou ne pas être de William Mesguich. Effectivement, ça parle du foot et de Shakespeare, donc c'était pas gagné quand même. Et ça va être en tournée. Alors, ce sera à Avignon, je pense, cet été. Et ça va commencer de tourner, là. Donc, si jamais vous le voyez passer, allez-y. C'est rafraîchissant. Et effectivement, ça parle de plein de choses intéressantes.
Tout le monde n'a pas la chance d'habiter à Guéret.
Et non.
Oui, absolument. Là, d'ailleurs, la pièce, elle sert aussi à ça. Hein. C'est un exutoire et c'est ce qui sauve sans doute Shakespeare lui-même, qui, comme dans le film, apparaissait dans les premières pièces. Il jouait dans les premières fois que la pièce a été jouée.
Mais je croyais que Shakespeare n'avait pas existé.
Non. Alors, un mot donc sur toute autre chose, sur un film que j'ai vu donc il y a très peu de temps, là, il y a quelques heures, Nuremberg. Alors, du déjà routier d'Hollywood, hein, habitué des films spectaculaires, sans doute un peu trop à mon goût, James Vanderbilt. Alors, le film raconte évidemment le procès des criminels nazis après la guerre, et particulièrement le rapport étrange entre le docteur Kelly, psychiatre, et Hermann Göring. Et en quoi cela va influencer l'accusation lors du procès. Beaucoup de bons hein, dans ce film, dont l'interprétation de l'infâme Reichsmarschall par Russell Crowe. Hein. Et du moins bon. Alors le rythme, il y a des images un peu étranges, moi je trouve, les villes allemandes, là, bon, on savait qu'elles étaient en ruine, mais il y a d'autres façons de montrer ça, je pense. Et des dialogues pas toujours convaincant, et puis un trait un peu forcé sur l'humanisation des leaders nazis. Mais tout de même, il faut le voir, et puis en parler. Et je pense que le parallèle avec aujourd'hui, qui est fait quasiment à la fin, hein, est tout à fait volontaire. Voilà. Donc ça, on peut dire ça.
Alors, si vous en avez l'occasion, il y a un très bon article du Monde qui s'appuie sur ce film, mais c'est surtout un prétexte pour raconter la vie hein, de ce... Donc,
de Göring.
Non, et non, justement pas.
Ah, du psy.
Voilà. Psychologue, hein, c'est ça? Ou psychiatre?
Psychiatre et psychiatre. Triste vie. D'ailleurs.
Exactement. Et donc, cet article est très intéressant et il... voilà. Et donc, il explique... pourquoi le fait de constater que des nazis absolument horribles n'ont pas pu être classés malades mentaux par les critères psychiatriques, ça a complètement détruit cet expert.
Oui, et finalement, ça revient à ce qui sera écrit quelques années plus tard par Hannah Arendt, c'est la banalité du mal. Ces gens ne sont pas fous.
Voilà.
À part un peut-être, et encore dans le film, la théorie qui est défendue est que l'autre espèce de zozo là, ça y est, le pilote là n'était pas fou non plus. Donc voilà.
C'était une idée effectivement insupportable, et ça a été encore plus insupportable pour ce psychiatre de constater que les gens normaux n'étant pas du tout exceptionnels et étant surtout très nombreux, ils pouvaient assister à la même chose dans son pays. Mais manifestement, ça a précédé sa perte, ça a précipité sa perte, pardon.
C'est tout à fait cela que j'évoquais.
Ouais, non, mais en plus. On peut dire que Göring était certainement pas fou, hein, parce que alors lui, pour le coup, il serait retrouvé dans les dossiers Epstein sans problème.
Hein. Oh, oui, mais c'est non, mais quoi, il a raison.
Ah non, mais c'était lui, il organisait plein de parties fines. C'est lui qui a pillé la France dans tout ce qu'il pouvait ramener en Allemagne. Enfin, lui, il profitait du système à fond. Après, je sais pas du tout ses convictions personnelles, mais
donc là, quand on présente sous un aspect un peu trop humain, quand on voit sa famille, tout ça. Bon, je pense que le psychiatre en question a été sincèrement bluffé. Après, c'est le propos qui est défendu dans le livre et dans le film. Voilà, bon. Bref, voilà.
Ouais, bon, faut aller
vous
le voir,
pas,
mais...
Vous n'avez pas été emballé par le film, ouais, en tout cas.
Faut le regarder quand il passera à la télé, quoi.
Et tant pis. Donc, passons à quelques hommages de personnalités qui nous ont quitter.
Vous en êtes sûr, hein, ils sont bien mortes. Hein, n'annoncez pas des gens qui seraient vivants.
C'est plus compliqué d'anticiper.
Sinon, on va tous être obligés de les mettre à la commission au Sud-Soudan après. Hein.
Et oui, comme je n'étais pas là la semaine dernière, je crois. Oui, c'est bien la semaine dernière. Donc, évidemment, j'ai une beaucoup trop longue liste. Alors,
mais si, allez-y, M. Kogan.
Kozo Fiowa était un acteur japonais. Vous connaissez peut-être ce Kozo Fiowa.
Non, pas du tout.
Il faudrait voir une photo ou un film, peut-être, si vous avez un titre de film.
C'était surtout un acteur de doublage, et donc il était en l'occurrence Bou dans Dragon Ball Z, figurez-vous.
Ah bon, alors il y en a qui doivent connaître. Hein.
Floyd Vivino, lui, était un acteur américain. Il avait joué, entre autres, dans Good Morning Vietnam. Michel Barbet était un acteur français méconnu, alors que le gars a joué avec tout le monde. Hein. Becker, Chabrol, Verneuil, enfin bref, voilà, c'est assez étonnant. Kazuhiko Hasegawa était un réalisateur et scénariste japonais. Damon Wilson était un acteur américain. Et Catherine O'Hara est une actrice canadienne. Alors, elle est un peu plus connue. Et elle a joué entre autres dans After Hours, dans Wyatt Earp, dans Maman, j'ai raté l'avion ou dans Beetlejuice, y compris la...
Exactement, le deuxième volet, on a récemment revu avec bonheur cette dame.
Voilà, et donc François Buckhowers était un acteur belge, lui. On peut aussi saluer dans le milieu artistique, on va dire, de la musique, entre autres, Francis Buchholz, qui était un bassiste allemand, Sly Dunbar, qui était un batteur de reggae jamaïcain, bien sûr, voilà. Richie Bayrack, qui était un pianiste de jazz, Roberto Housel, un guitariste argentin, assez connu dans son domaine, Brian Loren, qui était un producteur américain, entre autres, qui avait travaillé avec Michael Jackson, et Chuck Negron, qui était le chanteur des Three Dog Night. Et donc, du coup, je me suis mis à réécouter ce groupe que je n'avais pas entendu depuis peut-être 40 ans. Et voilà, donc je salue Chuck Negron, grand personnage. Et je ne peux pas ne pas citer, parce que j'ai été très ému par cette disparition, Maria Rouanet, en français Marie Rouanet,
l'occitaniste.
Qui était une militante occitaniste, une élue pendant 4 mandats, je crois, à Béziers, avant que cette ville devienne folle, qui était une chanteuse et une écrivaine en langue française et en occitan, un grand personnage. Entre autres, la femme d'Yves Rouquette, hein, grand personnage aussi de la mouvance occitane. Voilà, donc Maria Rouanet va beaucoup, beaucoup nous manquer. Elle était âgée de 89 ans, ce qui n'est pas jeune, mais voilà, c'était une grande figure. Côté littéraire, justement.
Avec une voix extraordinaire.
Ah oui, j'insiste, hein, il faut réécouter Chuck Negron et réécouter pour ceux qui ne la connaissent pas, Maria Rouanet. Du côté des lettres, donc l'historien André Bruguière, l'historien, et d'ailleurs il porte un nom, c'est un homonyme avec un autre écrivain, Joël Schmitt, l'écrivain Jean-Pierre Bastide, qui était un écrivain assez engagé, hein, proche de Manchette, avec qui il avait travaillé, et entre autres, il avait été aussi le scénariste de Dupont-la-Joie. Voilà, donc Jean-Pierre Bastide. Roland Huntford, qui était un biographe, un historien anglais. Sal Buscema, qui était dessinateur de comics. Michael Parenti, qui était un historien et un politologue. On peut clairement dire marxiste. David Aboulafia, qui était un historien spécialiste de la Méditerranée, un anglais. James Salis, écrivain américain, et entre autres l'auteur de Drive, qui a été adapté au cinéma. Swad Gelouz, qui était une poétesse tunisienne. Diana Ferrus, qui était une écrivaine sud-africaine. Jean Widmer, qui était un graphiste suisse. Et alors, vous connaissez le travail de Jean Widmer, forcément, puisqu'il a dessiné un nombre de choses incalculables dans Paris, par exemple. Fernand Ouellet, qui était un écrivain québécois. Et je salue, évidemment, là aussi, un grand écrivain méconnu, je pense, on peut le dire. Voilà, mon camarade Roger Martin, qui était l'auteur de beaucoup de choses, de romans noirs, polars, de BD, d'essais aussi. C'était un écrivain très engagé. Voilà, il avait 75 ans. Salut Roger. Eh bien voilà.
C'est donc fini pour ceux qui nous ont quittés trop tôt.
Absolument.
Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez quelques dates, Monsieur Kogan?
Ah oui, alors ben voilà, j'avais oublié.
Alors, si vous avez quelques dates, il vous reste quelques minutes.
Alors, c'est parti. Alors, on peut aller voir, hein, on peut aller voir dès samedi. On peut aller faire un tour à la Japan Expo de Limoges. Alors, c'est une petite Japan Geek Festival, ça s'appelle Japan Geek Festival au Palais des Expos à Limoges. Voilà, et entre autres, un de nos amis communs s'y produira en cosplay. Voilà, si vous ne savez pas ça, eh ben, je vous le dis.
Vous ne pourrez pas le rater, c'est le plus grand cosplay, je pense, qu'il y aura.
Absolument, et c'est absolument génial.
En hauteur.
Voilà. Pour lui, il faut y aller. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Alors, si, oh là là.
Il y a Sissi?
Non. Je vous propose évidemment le spectacle Une vie de goutte. C'est à Bussière-Galland samedi à 14h. Hein. Voilà.
Alors, spectacle jeune public?
Oui, alors, plutôt pour enfants. Voilà. Et c'est la compagnie L'Escargot dans les orties. Voilà, qui vient de fêter ses 13 ans.
Ah, rien à voir avec la maladie, parce que moi j'entends une vie de goutte, j'allais me dire, ça va être horrible comme spectacle.
rien à voir. Voilà.
Vous vendez du rêve ce soir, monsieur Edmond.
Oui, c'est ça. Et donc voilà, bon, bah, donc, je vous conseille d'aller voir ça, évidemment. Mais voilà, samedi, c'est aussi The Last Show, c'est à Condat-sur-Vienne. Voilà, donc là, une grosse soirée, hein. Comme il arrive de temps en temps à l'espace Confluence à Condat-sur-Vienne. Alors évidemment, on n'est plus tout à fait dans le spectacle pour enfants. On a de la blues, rock, Irish vibes, donc une soirée assez originale au niveau musical. On pourra y danser bien sûr et aussi déguster quelque chose, je crois, quelques produits. Autre chose à faire ce week-end, eh bien au Limoges, bien sûr, avec The Others, hein, qui est un groupe de classic rock. Un concert à la Quincaillerie, si je ne m'abuse, vous avez sans doute vu passer cela.
Tout à fait, c'est le premier, on espère, d'une longue série, un concert métal.
Absolument, avec les groupes Striver, Zanali et Miliatus. Voilà, donc on attend ça aussi avec impatience, je pense, comme vous venez de nous l'expliquer.
Voilà, c'est une association qui démarre, et qui, en tout cas, qui démarre une programmation de concerts. Voilà le mot que je cherchais, en effet. Et donc, ce sera le premier, donc, support d'Assine, hein.
Bah écoutez, oui. Alors, une petite soirée intéressante, puisqu'elle mêle histoire du militantisme limougeot et pour le coup très alternatif, et donc y compris le lieu, la musique, tout, puisque c'est une soirée sound system autour du Red and Archivist Skinhead, c'est-à-dire en gros l'histoire du mouvement Redskin à Limoges et ailleurs. Donc ça sera à l'international, donc un bon gros sound system samedi à partir de 20h30. On peut aller aussi, de quoi faire, donc à l'After Broken'Roll Party au Petit J, dimanche à 19h. Pourquoi je précise ça? C'est que, évidemment, c'est la Broken'Roll comme tous les ans, à Limoges, donc Broken'Roll, où vous pourrez retrouver des stands de disques, de livres et plein de choses comme ça.
Au parc des expos, comme d'habitude?
Ah oui, a priori. Enfin,
au pavillon
Buxerolles.
Voilà, au pavillon Buxerolles, plus exactement. Voilà.
Alors, mercredi 11 février, une jam session blues avec Loïs Morgan au Limoges. Un Blasted Drag Show le lendemain, donc jeudi 12. Vous avez Greg Novan et son groupe le vendredi 13. Donc, comme vous voyez, tous les soirs, il y a quelque chose à faire ou à voir au Limoges, donc à Limoges. Tanguy Pastureau, lui, et je précise, parce que c'est quand même un humoriste qui est capable du pire, mais quand même souvent du meilleur, donc sera avec son spectacle Un monde hostile à Boisseuil, hein, on ne présente plus la salle du Crousy, vendredi 13 février à 20h. Poésie Zéro, Vulgaire Machin et Not Scientist, eux, seront à Tulle, Et oui, le 13 février à 20h30. Voilà, pour les fans du punk. Ouais, on peut dire punk, là. On ne dit pas forcément
ah oui,
autre chose.
Oui. Poésie zéro, not scientist. Oui, en effet, oui.
Voilà. Bon, mon camarade Christian Penaud sera en dédicace le samedi 14. Mais nous en reparlerons, puisque maintenant nous décalons un petit peu dans le temps, si j'ai bien compris. Mais voilà, je vous quand même annonce ça. Préparez vos chéquiers, vos cartes bleues, pour aller vous faire dédicacer le dernier roman de Christian Penaud, La dernière lettre, donc samedi, dès 10h du matin. Voilà. On annoncera les autres dates la prochaine fois. Ah mais non, parce que la semaine prochaine, nous ne sommes pas là.
Non,
et
nous
ne
sommes pas là. C'est les vacances.
Ni la semaine prochaine, ni la semaine d'après. Parce que
on est au JO en Italie.
Bien sûr, c'est nos 15 jours de ski.
C'est moi qui fais la neige artificielle.
Alors comment
dans notre,
vous dire
dans donc, notre chalet à Chamonix.
Comment
dans notre chalet à Chamonix.
Alors, Musball devient le Folgiball. Voilà, ceux qui ont compris le jeu de mots, eh ben, vous pouvez nous envoyer un message. En gros, c'est le groupe Folgiball qui viendra jouer à Saint-Paul. Alors, vous aurez des stages l'après-midi et vous aurez donc un bal trad le soir avec Feuz, Zef et Octopulse. Voilà, donc tout ça, c'est de la bonne musique trad. Trad folk et puis un peu quand même de tendance rock hein, avec le groupe Zef en l'occurrence.
Et rappelez-nous la date et le lieu puisqu'on vous a interrompu.
C'est samedi et c'est samedi 14 février à 15h, à partir de 15h pour l'atelier, évidemment le soir, le bal sera le soir la salle se trouve place de l'église à Saint-Paul.
C'est une Saint-Valentin un peu créative.
Un peu original, tout comme je vous conseille d'aller au vernissage de l'exposition Nathalie Sansonnet au Limoges à 18h30. Mais il y a une expo à voir aussi sur les femmes artistes. Ces jours-ci, donc ça va commencer au pavillon du Verdurier. Voilà, donc je reprends le week-end d'après avec le Bipolar Club samedi 14 février à 19h30 au Limoges, toujours. Et puis, vous aurez de la musique trad, pour le coup, à Mémac. Oui, Mémac, ça me permet de faire un petit coucou à quelqu'un que j'aime beaucoup, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Voilà, c'était un private truc.
Ah oui, alors là, attention. Hein, c'est...
Donc voilà, c'est Projet Rustique donc, qui jouera à Mémac. Et là, la salle n'est pas précisée sur le. C'est vous dire à quel point c'est bien préparé.
Ouais, mais Mémac, comment on ne peut pas se perdre à Mémac ?
Ah, c'est difficile de se perdre, ouais, c'est difficile. Et alors, qu'est-ce que je pouvais annoncer d'autre après ? Très rapidement, c'est compliqué quand même. Deluxe vient à l'espace Croisi jeudi 19 février. Nous n'aurons pas repris l'émission le 19 février ?
Ben, je crois pas, je sais pas, monsieur Kogan, c'est pas grave, les gens vont se débrouiller sans vous, enfin on l'espère.
Ah. Et donc Hope, qui est un duo pop-rock, jouera le 20 février au Limoges, Lying for Pleasure plus Glass Zone, alors là on est dans du gros son, ce sera le vendredi 20 février à 20h au Dropkick, bien sûr, et ça me semblait important de le dire, Bobby Dierninger, pour ses 40 ans de carrière, fêtera ça le 20 février aussi, que je ne me trompe pas, et ce sera à Jean Gagnant à 20h30. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut annoncer d'autre très rapidement?
Très là, rapidement maintenant, monsieur Kogan.
C'est compliqué. Si, on peut quand même dire qu'Ultra Vomit vient.
Non, c'était pas la peine.
Ah si, viens à Fetia le 21 février. Voilà.
Et je crois que Didier Super vient également à la Souterraine dans pas très longtemps.
Ah mais c'est formidable. Voilà, et puis quoi on peut terminer ? Eh bien, on peut terminer le vendredi 27 février avec un concert à John Lennon. Dans le cadre des Cheminées du Rock, hein, et entre autres avec le groupe Lizard. Voilà, c'est tout pour moi.
Eh ben c'est très bien, il n'en fallait pas plus. Eh ben écoutez, on vous souhaite à tous de bonnes vacances et puis on se retrouve dans quelques semaines.
Ou alors on se revoit à Chamonix.
que j'espère te le rendre quand t'es heureuse dans tes bras.